En plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine fait face à un problème vraiment concret et potentiellement mortel, disons-le.
Oui, un problème majeur.
Exact. Leurs pilotes d'aviation ont un mal fou à évaluer les distances pour atterrir correctement. Puis les manuels d'entraînement qui sont basés sur la science de l'époque, ben ils ne semblent pas fonctionner du tout sur le terrain.
C'est ça, ça marchait juste pas en pratique.
Et la solution à ce problème-là, qui a été trouvée un peu par hasard par un chercheur mobilisé pour l'effort de guerre, est en train de redéfinir complètement la façon dont on conçoit l'apprentissage aujourd'hui. D'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe en ce moment même sur les tatamis du Jiu-Jitsu Saguenay.
C'est une trajectoire intellectuelle assez phénoménale, tu sais. On part d'un cockpit de bombardier dans les années 40 pour atterrir directement dans les méthodes de coaching sportif de haut niveau de notre époque.
Fait que c'est la mission de notre exploration en profondeur aujourd'hui. On plonge dans une grosse pile de notes de recherche et d'articles vraiment fascinants pour extraire les pépites autour de l'histoire intellectuelle d'un certain James J. Gibson.
Et de ce qu'on appelle la psychologie écologique, oui.
Exactement. Et d'ailleurs, petite parenthèse rapide, juste pour mettre les choses au clair, parce que je me suis fait prendre au début, on parle bien du psychologue James J. Gibson.
Ah oui, la fameuse confusion.
Ben oui. Il faut surtout pas le confondre avec William Gibson, tu sais, l'auteur de science-fiction qui a écrit Neuromancien. Fait que pas de cyberespace au menu aujourd'hui, mais je suis convaincue que les idées qu'on va aborder bouleversent tout autant notre conception de la réalité.
Totalement. Et pour saisir l'ampleur de cette cassure scientifique-là, il faut vraiment d'abord remettre les pendules à l'heure sur ce que t'es la science cognitive entre les années 40 et 60.
Ouais, parce qu'on partait de loin.
Hein? Vincent. À ce moment-là, la psychologie académique est sous l'emprise totale d'un dogme très précis, la métaphore du cerveau ordinateur. On voyait la perception humaine genre comme un processus purement constructiviste.
D'accord, décortiquons tout ça parce que c'est lourd comme terme. Qu'est-ce qu'on veut dire par là concrètement quand on dit que le cerveau agit comme un ordinateur constructiviste?
Bien, la communauté scientifique de l'époque observait l'anatomie humaine puis en tirait des conclusions super mécaniques. On se disait que la rétine, au fond de l'œil, captait juste une image en deux dimensions.
Comme une photo plate, dans le fond.
Exactement. Une simple mosaïque de points lumineux. Même chose pour Louis, qui ne captait que des variations de pression dans l'air. Fait que les organes sensoriels étaient vraiment vus comme des capteurs passifs qui recevaient des données brutes de l'environnement.
OK, je vois.
Mais le problème central de cette théorie-là, c'est qu'elle considérait ces données-là comme étant pauvres, incomplètes et genre pleines d'ambiguïté.
Ah, c'est un peu comme... Attends, c'est comme si on donnait à un détective des photos d'une scène de crime, mais que ces photos-là étaient toutes floues.
Ouais, des mauvaises photos.
C'est ça, prise avec un mauvais éclairage, déchiré en petits morceaux, fait que le détective ne peut pas juste regarder ces bouts de papier-là pour savoir ce qui s'est passé.
Non, il doit travailler fort.
Il doit faire un vrai travail de déduction, relier les indices, essayer de deviner ce qui manque dans l'image.
C'est une excellente analogie. Et le pire, c'est que la science a poussé cette logique-là à l'extrême. Selon ce modèle dominant-là, le cerveau devait agir exactement comme ton détective.
Fait qu'il calcule tout le temps?
Ben oui. Il prenait les fragments d'images floues envoyés par les yeux et grâce à une série d'algorithmes et de calculs statistiques, il devait reconstruire une image en 3D cohérente du monde.
Wow!
Fait que voir une pomme sur une table, c'était pas un acte direct. C'était le résultat d'un calcul mental ultra rapide où le cerveau évaluait la probabilité, tu sais, qu'il y ait réellement une pomme devant nous.
C'est quand même capoté de penser qu'on voyait le cerveau de même. Mais bon, on était en plein dans l'émergence des premiers gros ordinateurs, ceux de la taille d'une pièce au complet.
Ouais, la technologie influençait la biologie.
J'imagine que la tentation de comparer le cerveau à ces nouvelles machines-là était juste trop forte pour les chercheurs.
Ce qui est fascinant ici, c'est que la métaphore était tellement séduisante qu'elle est devenue carrément aveuglante. La psychologie cognitive naissante l'a adoptée comme une vérité absolue.
Sans se poser de questions.
Exact. Il y a une entrée de données sensorielles, un traitement central dans le grand processeur qui est le cerveau, et ensuite ben, une sortie sous forme de commande motrice.
Input, processing, output.
C'est en plein ça. Et dans les années 80, ça a même culminé avec les travaux de David Moore.
Ah oui, le chercheur britannique?
Oui, très influent. Il a tenté de formaliser la vision comme une suite de modules et de formules mathématiques. Pour lui, la vision humaine, c'était fondamentalement un problème d'inférence statistique à résoudre.
Ouais, mais c'est là que ça accroche pour moi. Je veux dire, si on est des ordinateurs qui font des calculs statistiques complexes pour comprendre ce qu'on voit, ça demande du temps, ça. Hein?
Énormément de temps.
Et des ressources immenses.
Et dans la vraie vie, un être humain n'a pas le temps de s'asseoir pour faire des maths quand il doit réagir vite pour pas mourir. Ce qui nous ramène directement à la Seconde Guerre mondiale, non?
Absolument.
James Jigginson arrive exactement à ce moment critique-là. C'est un psychologue de l'Ohio, très respecté à l'époque. Il publie des travaux tout à fait orthodoxes sur la mémoire, l'apprentissage, vraiment dans le moule classique.
Le parfait universitaire.
Voilà. Mais quand la guerre éclate, il est appelé par l'aviation militaire pour concevoir des tests visuels et des manuels pour les pilotes d'avions de chasse et de bombardiers.
Puis apprendre à poser un avion militaire, surtout dans ce temps-là, ça demande une précision chirurgicale.
Et beaucoup de sang-froid.
Surtout avec les vieux coucous des années 40.
Fait que Gibson se retrouve sur les bases aériennes puis il essaie d'appliquer les théories de l'inférence visuelle qu'il enseignait lui-même à ses propres étudiants.
Et j'imagine que ça marche pas pantoute.
Il frappe un mur de briques. Ça ne marche pas. Si le cerveau humain fonctionne vraiment comme le dit la théorie, un pilote en phase d'atterrissage devrait capter une série d'images statiques de la piste.
OK.
Ensuite, envoyer ça à son cerveau, faire des équations trigonométriques pour calculer la distance, la vitesse de rapprochement, l'angle de descente et tout ça, pour ensuite envoyer une commande à ses bras pour ajuster le manche de l'avion.
Ben là, attends, je bloque sur un truc. C'est juste impossible physiquement, là.
C'est totalement impossible.
À des centaines de kilomètres à l'heure, le temps que l'influx nerveux fasse tout ça, le pilote s'écraserait bien avant d'avoir fini de calculer la distance de la première image.
La dissonance était totale pour Gibson. C'est là qu'il réalise que le pilote ne calcule absolument rien. L'information nécessaire pour atterrir, ben, elle n'est pas construite dans le cerveau.
Elle est où d'abord?
Elle est déjà présente, parfaitement structurée, dans l'environnement lui-même. Gibson observe un phénomène qu'il va nommer le flux optique.
Le flux optique. OK. Comment ça fonctionne concrètement? Qu'est-ce que le pilote perçoit dans ses yeux si ce ne sont pas des photos séparées qui s'enchaînent?
C'est super élégant. Si on s'approche d'une surface, comme la piste d'atterrissage, la lumière qui rebondit sur la texture de cette piste-là forme un motif très spécifique dans notre champ visuel.
Un genre de pattern.
Exactement. Plus on s'approche vite, plus ce motif se dilate vers l'extérieur. Le point exact vers lequel l'avion se dirige reste complètement immobile au centre du champ de vision.
Ah, je vois.
Et pendant ce temps-là, tout le reste s'éloigne de centre, comme une explosion visuelle qui s'accélère.
Ah! C'est le fameux effet vitesse-lumière dans les films de science-fiction. Tu sais, quand les étoiles s'étirent et s'écartent du centre du pare-brise du vaisseau spatial.
C'est la meilleure image pour le comprendre. Et cette expansion géométrique-là de la lumière, ben, ce n'est pas une donnée ambiguë qu'il faut déchiffrer ou deviner. C'est de l'information pure, riche et complètement non équivoque.
Fait que pas besoin de détective.
Aucunement. Le flux optique spécifie directement le temps restant avant l'impact, un concept qu'on appelle le taux, sans qu'aucun calcul mathématique ne soit nécessaire de la part de l'observateur.
Oui, mais... Et c'est là que je vais en faire l'avocate du diable, là, et que j'ai besoin qu'on creuse.
Vas-y.
Comment le corps sait à quel moment tirer sur le manche sans passer par une étape de traduction dans le cerveau? L'œil capte cette lumière en expansion, je veux bien, mais il faut bien que le cerveau traduise sans aux commandes musculaires pour les bras, non? Il doit bien faire un petit peu de traitement d'informations cachées.
Non. Et la rupture radicale de Gibson avec la psychologie classique est précisément ici. Il affirme que l'environnement physique possède déjà une structure, imposée par la gravité, les surfaces, les textures.
OK.
L'humain n'a pas besoin de traduire la lumière ambiante en un modèle interne. Le système nerveux tout entier a évolué pendant des millions d'années pour se coupler directement avec cette structure-là.
Se coupler?
Oui. Le flux optique contient déjà l'information motrice. La perception et l'action ne sont pas deux étapes distinctes séparées par un gros calcul central. C'est une boucle continue. L'animal bouge pour percevoir et il perçoit pour bouger. L'information spécifie l'action directement.
Wow! OK. Donc, la lumière nous donne directement le mode d'emploi du mouvement. C'est fou, pareil.
C'est un changement de paradigme complet.
Et j'imagine qu'il aura fallu des années à Gibson pour formaliser tout ça et convaincre ses collègues, jusqu'à la publication, en fait, de son œuvre majeure en 79, « The Ecological Approach to Visual Perception ».
L'approche écologique de la perception visuelle. Oui.
D'ailleurs, je suis curieuse, pourquoi avoir choisi le mot « écologique » parce qu'on s'entend qu'on ne parle pas de recyclage ou de sauver les forêts ici?
Non, pas du tout. Le terme est utilisé dans son sens biologique fondamental. L'écologie, c'est l'étude de l'interaction dynamique entre un organisme et son milieu.
Ah, logique.
La grande critique de Gibson envers ses collègues, c'est qu'on ne peut absolument rien comprendre à la perception humaine si on isole un sujet dans un laboratoire obscur en lui faisant regarder un écran immobile. La perception n'existe que dans la relation. On doit étudier l'organisme entier, en mouvement, dans son habitat naturel.
Et c'est ici que ça devient vraiment intéressant. Parce que de cette approche écologique-là découle le concept central des recherches de Gibson, Les affordances.
Ah, les fameuses affordances.
C'est un terme qu'on voit souvent passer en design d'interface aujourd'hui, mettons pour des sites web. Mais à l'origine, l'idée de Gibson est profondément organique, n'est-ce pas?
Tout à fait. L'affordance, dans ces mots, c'est l'offre d'action que l'environnement propose à un animal spécifique. Gibson avance que nous ne percevons pas des formes géométriques neutres qui seraient ensuite chargées de sens par notre intellect.
On perçoit quoi alors?
Nous percevons directement des opportunités d'action.
Ah, c'est comme, je te donne un exemple, quand on marche dans le bois. Si je suis fatiguée et que je regarde autour de moi pour faire une pause, je ne repère pas un cylindre de bois avec une densité X et un rayon Y.
Non, ça n'aura aucun sens.
Pour ensuite déduire avec ma logique que sa structure moléculaire peut soutenir mon poids de tant de kilos. C'est pas ça qui se passe. Mon corps perçoit directement une souche comme étant un endroit, disons, assoyable.
Exactement.
Assoyable. Je vois un ruisseau et je perçois immédiatement si c'est enjambable ou s'il faut que je trouve un autre chemin pour pas mouiller les pieds. Pas de maths, juste une relation directe entre la longueur de mes jambes et la largeur du ruisseau devant moi.
Et cette relation-là, elle est clé. Les affordances, ce ne sont pas des propriétés objectives de l'environnement ni des illusions subjectives de l'esprit.
Elles sont entre les deux.
Elles existent vraiment dans la relation physique. Je te donne un exemple classique. Une chaise de taille adulte offre la possibilité de s'asseoir un humain moyen. Mais pour un bébé qui apprend tout juste à marcher, cette même chaise-là offre une affordance totalement différente. C'est un appui pour se hisser debout.
Ah, ben oui! Et pour un chat, c'est un refuge où se cacher en dessous?
Exact. La chaise ne change pas physiquement, mais l'offre d'action change selon l'organisme qui interagit avec.
C'est brillant! Et d'ailleurs, il faut absolument souligner que cette révolution scientifique-là, elle ne s'est pas faite en vase clos par un seul homme. James Gibson a travaillé de concert avec son épouse, Eleanor J. Gibson.
Ah oui, Eleanor Gibson est une sommité incontournable dans ce domaine-là. Pendant que James théorisait la perception visuelle, elle a mené des travaux pionniers sur l'apprentissage perceptif puis le développement moteur.
C'est elle l'expérience avec les bébés, non?
Oui, oui, oui.
Elle est célèbre pour l'expérience de la falaise visuelle dans les années 60. Elle a prouvé que les nourrissons perçoivent le danger d'une chute bien avant d'avoir l'expérience rationnelle et physique de tomber.
Ils voient directement l'affordance de tomber.
C'est en plein ça. Elle a démontré comment les bébés apprennent à calibrer leurs mouvements en explorant activement ce que l'environnement leur permet de faire. C'est vraiment grâce à elle que la psychologie écologique est devenue une théorie super concrète pour le développement de l'enfant. Fait que là, j'ai une grosse question. Si Gibson a prouvé dans les années 70 avec les pilotes d'avion et Eleanor avec les enfants que notre cerveau n'est pas du tout un ordinateur qui fait des calculs statistiques, pourquoi il a fallu attendre les années 2000 pour que le monde du sport, et particulièrement celui des arts martiaux, finisse par allumer puis change ses façons de faire?
Ouais, c'est que les dogmes ont la vie dure en science. Le paradigme du cerveau ordinateur était tellement ancré dans les manuels de biologie et de kinésiologie, il a fallu que la neuroscience moderne, dans les années 90, vienne prouver avec l'imagerie cérébrale que le système nerveux est massivement interconnecté et dépendant du corps physique pour que les choses bougent enfin.
Il fallait voir le cerveau en action pour y croire.
C'est ça. Et c'est à ce moment-là que des chercheurs en sciences du sport, comme Carl Newell ou Keith Davids, ont pris les idées de Gibson et ont fondé ce qu'on appelle l'approche écologique dynamique.
Ce qui nous amène enfin sur les tatamis du jiu-jitsu saguenay.
La boucle est bouclée?
Oui. On voit depuis quelques années des entraîneurs innovants, que ce soit un chercheur comme Rob Gray ou un coach de renommée comme Greg Souders, qui prennent ces concepts-là de perception directe puis qui les appliquent carrément au combat corporel. Et ça, mais ça donne lieu à la mort d'une véritable institution dans les arts martiaux, le fameux « dead drill ».
La répétition à vide.
Ouais.
Si on regarde historiquement, comment apprenait-on une technique martiale? Le professeur réunit les élèves, montre une prise, mettons une clé de bras étape par étape. 1, 2, 3. Ensuite, les élèves se mettent 2 par 2.
Puis là, ça devient super mécanique.
Exact. L'un donne son droit de façon totalement coopérative puis inerte, et l'autre répète la séquence mécanique 50 fois dans le vide.
L'idée derrière ça, c'est vraiment la vieille mentalité inférentielle qu'on disait tantôt. T'sais, on se dit qu'on installe le logiciel de la clé de bras dans le cerveau de l'élève par la répétition, en espérant que le moment venu, en plein combat, son cerveau reconnaisse la situation et déclenche le mouvement comme un programme préenregistré.
Si on relie ça à la vue d'ensemble, sauf que ça ignore complètement le concept de couplage perception-action de Gibson. Quand on isole le mouvement de son contexte environnemental dynamique, on ampute littéralement la moitié de l'équation.
C'est clair.
sur un tatami en plein combat ou randori, comme ils disent, l'adversaire n'est jamais inerte.
Non, l'adversaire, c'est un chaos organisé. Si on prend l'exemple d'un balayage, mettons un sweep en jujitsu, quand on est sous son partenaire et qu'on veut le renverser, on ne fait pas un calcul d'ingénierie dans notre tête.
Ah ben non.
On ne se dit pas, considérant que son pied gauche vient de se déplacer de 15 cm, ce qui abaisse son centre de gravité, j'applique une force de levier avec mon tibia droit avec un angle de 45 degrés. Voyons donc.
Si l'athlète essaie de penser comme ça, l'opportunité de renverser a déjà disparu depuis super longtemps. Le partenaire a bougé 3 fois.
Fait que ce qui se passe en réalité, c'est qu'on perçoit une affordance directement à travers les points de contact. On ressent une tension dans le tissu épais de son kimono. On sent un transfert de poids microscopique sur nos hanches.
Exactement.
C'est de l'information haptique liée au toucher puis à la pression. Et c'est tout aussi riche que le fameux flux optique du pilote d'avion dont on parlait. Cette tension-là nous dit directement « OK ». C'est le moment de basculer. Le corps réagit à l'offre de déséquilibre offerte par l'adversaire.
C'est super bien dit. Et c'est pour ça que la répétition morte, les « dead drills », ça ne fonctionne pas pour créer des athlètes capables de s'adapter en temps réel.
Ils sont perdus dès que le partenaire résiste.
En plein ça. Si on ne s'entraîne pas à percevoir ces affordances changeantes-là, on a beau connaître la mécanique parfaite d'une technique de A à Z, on ne saura jamais quand l'appliquer. C'est la raison pour laquelle le Jiu-Jitsu Saguenay, comme d'autres clubs d'avant-garde maintenant, utilise l'approche par les contraintes, ou « constraints-led approach » en anglais.
Ils ont remplacé les chorégraphies par des jeux.
Voilà, on remplace les démonstrations par des jeux spécifiques.
Concrètement, ça ressemble à quoi un jeu sous contrainte par rapport à un entraînement classique? J'aimerais qu'on explore ça avec une situation un peu plus chaotique sur les tapis, comme, tu sais, essayer de passer la garde de l'adversaire quand il a ses jambes entre nous puis lui pour se défendre.
OK, bonne situation. En enseignement traditionnel, le prof montrerait une séquence de 3 pas parfaits pour contourner les jambes et tout le monde répéterait ces 3 pas-là sans résistance.
Un beau ballet.
Exact. Mais avec l'approche écologique, on va plutôt fixer un but et mettre des règles strictes. Par exemple, le défenseur sur le dos a pour consigne de ne pas utiliser ses mains pantoute, seulement ses jambes pour repousser.
Ah, ça change tout!
L'attaquant debout, lui, a pour seul objectif de réussir à poser la ligne des épaules du défenseur sur le tapis pendant 3 secondes. On ne leur dit pas du tout comment faire. On les lance dans le jeu.
Fait que là, ça devient un vrai laboratoire d'exploration corporelle. Les gars et les filles doivent trouver leur propre solution.
Précisément. Et c'est là qu'entre en jeu un phénomène fascinant de la dynamique écologique qu'on appelle la métastabilité.
La métastabilité?
Oui. Quand 2 lutteurs s'affrontent, ils ne sont presque jamais dans une position complètement stable et bloquée, ni dans une chute totalement incontrôlable. Ils naviguent constamment dans une zone de transition très fluide dans différents états de stabilité.
Ah, OK! C'est le fameux scramble, tu sais, ce moment de cafouillage total où les deux roulent dans tous les sens puis où personne ne sait vraiment qui a l'avantage.
Le scramble, c'est l'exemple parfait. La métastabilité, c'est l'art de surfer sur ce scramble-là. Au lieu de figer l'affrontement pour chercher la position statique parfaite du manuel d'instruction, l'athlète apprend à maintenir cet état de déséquilibre dynamique.
Il reste loose, il s'adapte.
Exact. Il navigue dans le chaos jusqu'à ce que, soudainement, une faille s'ouvre. Les jambes du partenaire se croisent mal, l'équilibre est rompu.
Une affordance apparaît.
Boum! L'athlète s'y engouffre spontanément sans même y penser. L'entraînement par jeu contraint, c'est exactement ça. Ça n'apprend pas des chorégraphies par cœur, ça éduque l'attention pour repérer les affordances directes dans le chaos métastable.
Écoute, c'est capoté de penser que c'est l'observation d'un psychologue sur le tarmac d'une base militaire en 1943 qui finit par expliquer comment 2 personnes en pyjama de combat interagissent de manière optimale aujourd'hui.
Le fil conducteur est fascinant.
Vraiment. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire, au fond? Le grand constat de notre plongée dans les sources aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas des machines isolées qui analysent froidement le monde derrière nos yeux. L'information n'est pas juste dans notre tête, elle est dans le monde autour de nous.
C'est un système unifié.
Et l'intelligence ne réside pas dans notre capacité à faire des gros calculs mathématiques, mais dans notre habileté à raisonner avec notre environnement et à agir en étant couplé avec lui. Le mouvement et l'environnement sont, au final, nos meilleurs professeurs.
Cette redéfinition-là de la perception, elle ouvre des portes immenses qui dépassent largement les arts martiaux ou l'aviation. La psychologie écologique de Gibson remet en question la nature même de notre lien au monde,
On pourrait d'ailleurs faire toute une autre exploration juste sur l'éducation de l'attention.
C'est clair. Et ça pousse à réfléchir sur d'autres aspects de nos vies où on s'obstine encore à utiliser le mauvais modèle, tu sais, le modèle de l'ordinateur. Si l'entraînement sportif a fait fausse route pendant un demi-siècle en séparant artificiellement l'information visuelle de l'action physique, on est en droit de se poser une question assez troublante sur, par exemple, nos systèmes d'éducation.
Absolument. Cela soulève une question importante. Combien d'écoles primaires, de cours universitaires ou même de formations professionnelles en entreprise s'entêtent encore à nous traiter comme des disques durs qu'il faut juste remplir de concepts abstraits?
Pendant qu'on est assis immobile sur une chaise.
Exactement. Si la science nous dit que notre nature profonde est d'être en interaction corporelle dynamique avec un environnement riche, bien, on est peut-être en train d'éteindre notre intelligence naturelle en refusant de laisser les gens interagir concrètement avec la matière.
Retrouver notre lien physique avec le monde extérieur au lieu de rester coincé dans la salle des machines de notre cerveau, que ce soit pour poser un bombardier en urgence ou pour trouver la faille dans la défense d'un adversaire sur un tatami au Saguenay, le corps sait des choses que l'ordinateur central ignore. L'illusion de la machine est brisée et franchement, c'est une excellente nouvelle.